Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, David Rosset, je suis le pasteur de cette belle église. Et nous sommes dans une période où nous nous apprêtons à fêter la fête la plus importante pour les chrétiens, la fête de Pâques. Et puis on est en train de se poser la question, qu'est-ce que le carême et puis en quoi ça nous concerne, même nous évangéliques, et en quoi ça peut même nous être profitable pour qu'on puisse vivre et fêter avec tout notre cœur cette fête de Pâques qui est centrale pour nous. Alors, on a pris un peu ce thème de faire de la place. Et pour faire de la place, il n'y a qu'une seule direction, c'est qu'on ouvre les mains pour recevoir de Dieu. C'est ce que signifie cette image derrière moi, que j'aime beaucoup. C'est ces croyants qui viennent vers la croix, qui ouvrent leurs mains vides pour recevoir de Dieu cette puissance et cette puissance d'action qui ne peut que venir de Dieu. Et cette puissance de vie, elle vient parce que Christ est ressuscité. Et c'est dans cette relation-là que nous voulons vivre et nous inscrire. Parce que quand on fait de la place, on a vu la dernière fois que c'était un premier plan qui nous invitait à renoncer. À renoncer, et ça pouvait s'exprimer, se manifester à travers la pratique du jeûne. C'était surtout ce qui se passait dans la tradition de carême, c'est qu'on s'enlève quelque chose, puis Claudia l'a rappelé, pour pouvoir faire de la place à Dieu. Et puis, j'avais bien insisté pour se dire que ce renoncement, c'est pour faire place à Dieu, justement, et nous ouvrir à sa grâce. Et quand j'ai prêché cela, il y avait aussi tous les catéchumènes. Et puis, je suis allé les retrouver après pour le repas, parce qu'on a décidé de faire à moitié de jeûne, parce qu'on a fait un repas avec des crêpes. Et puis, je leur pose la question, mais qu'est-ce que vous avez retenu un peu de ce que j'essaie de partager? Il me semblait que j'avais pas mal insisté, je pense, sur la grâce et cette ouverture à Dieu. Alors, ils m'ont tous dit, le carême, c'est qu'on doit arrêter de manger quelque chose, on doit se priver de tout cela, on doit faire en sorte de faire juste. Puis j'étais là, alléluia, j'ai été entendu. Une belle leçon d'humilité dans ce qu'on essaye de transmettre. Et puis les idées qui restent quand même bien accrochées. Donc, et c'est des jeunes, hein. Ce n'est pas une génération qu'on pourrait se dire qui a été marquée par un enseignement peut-être un peu légaliste, non? Des jeunes, et pourtant on se rend compte que le chemin de la grâce, on le prêche souvent, mais il n'est pas si facile que ça à faire aller jusque dans nos cœurs et dans nos réalités. Donc c'est pour ça que je réinsiste et je mets vraiment en lumière cette idée que si on va dans cette direction de poser des actes, c'est pour nous ouvrir à Dieu. Point. Puis après, je vais vous poser la question à l'apéro de ce que ça signifie le carême. Il y a deux éléments dans cet élément de faire de la place. Il y a l'élément où on renonce, et il y a l'élément où on donne, et Claudia nous en a aussi donné là différents exemples. Il y a vraiment ces deux pôles qui sont presque indissociables l'un de l'autre. Il y a le renoncement et le don. Et ce matin, nous allons voir ce qu'il en est du don. Lorsque tu seras entré, je lis dans le livre du Deutéronome, chapitre 26, « Lorsque tu seras entré dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne comme patrimoine, lorsque tu en auras pris possession et que tu l'habiteras, tu prendras alors des prémices de tout le fruit de la terre que tu recueilleras de ton pays, celui que le Seigneur, ton Dieu, te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que le Seigneur, ton Dieu, choisira pour y faire demeurer son nom. Tu iras vers le prêtre qui sera en fonction en ces jours-là et tu lui diras, « Je déclare aujourd'hui au Seigneur, ton Dieu, que je suis entré dans le pays » que le Seigneur a juré à nos pères de nous donner. Le prêtre prendra alors la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel du Seigneur, ton Dieu. Et toi, tu diras devant le Seigneur, ton Dieu, « Mon père était un Araméen nomade. Il est descendu en Égypte avec peu de gens pour y séjourner en immigré. Et là, il est devenu une nation forte, grande et nombreuse. » Les Égyptiens nous ont maltraités, affligés et soumis à un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Le Seigneur nous a entendus et il a vu notre affliction. notre peine et notre oppression. D'une main forte, d'un bras étendu par une grande terreur avec des signes et des prodiges, le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte. Il nous a amenés dans ce lieu et il nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et ruisselant de miel. Maintenant, j'apporte les prémices du fruit de la terre que tu m'as donné, Seigneur. Tu les déposeras alors devant le Seigneur, ton Dieu, et tu te prosterneras devant le Seigneur, ton Dieu. Puis, tu te réjouiras avec le Lévite et avec l'immigré qui sont en ton sein, pour tous les biens que le Seigneur, ton Dieu, t'a donnés à toi et à ta maison. Amen. Faire de la place. Je vous avais posé comme exemple l'illustration de ma bibliothèque. Alors, mon épouse n'est plus là, alors je peux y aller plus facilement. Et le fait, par exemple, d'aller dans sa cave et puis d'y retourner plusieurs années après et de se rendre compte que bientôt, on n'arrive plus à y rentrer dans cette cave tellement les choses s'y accumulent. Et puis, généralement, on peut commencer à faire du tri lorsqu'on déménage parce qu'il y a beaucoup moins de choses à prendre et puis c'est un peu pénible de les prendre avec. Donc, on fait le tri. Mais qu'est-ce qui se passe quand on fait le tri, généralement ? J'ai pas compris.
C'est la catastrophe.
Alors c'est la catastrophe, mais pourquoi est-ce la catastrophe ? Parce qu'il faut se séparer de choses qui nous sont chères. Mais est-ce vraiment le cas ? Non. Alors généralement, si elles sont à la cave, c'est que c'est pas très bon signe pour l'utilisation des choses. En effet. C'est que généralement, on n'a pas réussi à vraiment s'en séparer. Donc du coup, étape intermédiaire, on les met à la cave. Comme tout le monde rigole, je me dis que ça doit correspondre un peu à la réalité. Et puis une fois qu'elles ont bien dormi pendant 2, 3, 4, 5 ans à la cave et qu'on n'arrive plus, là, enfin, peut-être, on peut se décider de s'en séparer. Mais ça fait peut-être 5 ans qu'on ne les a plus touchées, ces choses-là. Mais parce qu'on a toujours l'idée que ça pourrait nous servir. Ce que je veux montrer par là, c'est que on a de la peine à se séparer de notre superflu. Et même le superflu, on se pose 1000 questions pour pouvoir savoir si on est vraiment capable de s'en séparer. Et là, vous savez ce que c'est les prémices d'une récolte ? Les prémices. Les premiers fruits, les plus beaux fruits, finalement, ce qu'on a de meilleur. Exactement. Il y a un petit paradoxe, ça, là. Nous, on a de la peine à se séparer de notre superflu. Et puis Dieu nous demande de lui apporter, lorsqu'on est dans sa plénitude, dans sa grâce, de lui apporter le meilleur de nos fruits. Le contraire du superflu. Pour faire de la place, ce n'est pas donner ce qu'on a en trop et puis ce qui dort à la cave. C'est lui apporter les prémices de ce que nous avons récolté. Lui apporter finalement ce qui nous tient le plus à cœur. Exigence de la parole. Hein. Et on est au cœur de notre question sur le don. Le don tel que la Bible le comprend, on en est là. Et puis je l'ai mis avec une opposition entre la gestion des biens et la réalité du don. Entre la gestion où finalement un bon gestionnaire, il va enlever son superflu, et puis un bon donateur, il va apporter les prémices de ce qu'il a au Seigneur. Parce que qu'est-ce qui se passe concrètement avec cette histoire de prémices ? Je ne sais pas si vous êtes posé la question, mais moi, en creusant ce texte, ça m'a fortement intéressé. Imaginez, il y a l'Israélite qui arrive, il va, il apporte son offrande, un panier avec plein de belles choses, il va vers le prêtre et il lui apporte cela. Vous êtes posé la question de qu'est-ce que le prêtre va faire avec ce panier ? A priori, on n'en sait rien. On peut imaginer qu'il les prend pour lui et sa famille. Peut-être qu'il va l'utiliser pour X choses et le donner aux plus pauvres du peuple, je ne sais pas. Celui qui offre, d'après moi, il n'en sait rien. Il fait une offrande dans le vide. C'est vraiment plouc hein, de sa part. C'est plus beau fruit. Il n'a rien compris. Et pourtant, on ne sait pas quel est le destin concret de cette offrande, quelle est son utilité. Nous sommes des obsédés de l'utilité. Pour nous, si on fait un don, c'est évident qu'il doit avoir une utilité et puis que cette utilité doit être démontrée et prouvée. Le croyant n'est pas appelé et invité à agir ainsi avec Dieu. Il est appelé à donner parce que Dieu agit dans sa vie. Point. Cette offrande, le croyant, il ne sait pas ce qui va en advenir. Et il n'a pas à le savoir, en tout cas selon le texte qui nous est proposé là. Le seul commandement de Dieu, il lui dit, toi tu vas chercher tes premiers fruits, tu les apportes au prêtre, et tu signifies par là la relation que tu as avec Dieu et son action dans ta vie. Et puis c'est encore même plus large que ça, parce que ce n'est pas dans ta vie à toi personnellement, c'est dans la vie du peuple de Dieu, vous avez remarqué ? Ce n'est pas parce qu'il m'a fait quelque chose à moi, Dieu, dans sa grâce, David Rosset, mais c'est parce qu'il a fait quelque chose pour le peuple d'Israël. Alors peut-être que moi, je n'ai rien vu du tout. Parce que peut-être j'étais tout derrière quand il y a eu le passage de la mer Rouge et puis que j'ai juste réussi à passer le truc, ou bien qu'on m'a raconté, parce que c'était mes grands-parents ou mes arrière-grands-parents qui l'ont passé. Et pour cela, je dois continuer de te donner les premiers fruits de ma récolte. Ce n'est pas juste. C'est pas juste, et puis c'est complètement abusif. Et pourtant, des générations plus tard, pourquoi on donne quelque chose à Dieu ? C'est parce que Dieu a peut-être fait une action spectaculaire il y a plusieurs générations de cela. Et moi, dans le présent, je suis appelé à toujours donner pour cette action-là. Parce que l'action de Dieu peut être visible, mais il faut tout de même constater que même dans la Bible, c'est assez rare qu'il sépare une mer en deux. C'est assez rare qu'ils fassent des gestes complètement extraordinaires puis qu'ils me disent « Alors là, Dieu, là, je suis d'accord, t'as vraiment cartonné, je te donne mes prémices, mais dans 3 ans, j'arrête, hein, c'est après, avec intérêt, je ne vais pas aller plus loin. » Bien plus souvent, pour nous, l'action de Dieu, elle est intérieure, donc invisible. Et là, je vais toucher un point qui est assez intéressant par rapport à l'offrande. Cette action de Dieu, souvent, se demande comment l'exprimer, la faire sortir, finalement. Parce qu'elle est invisible. Elle est dans notre intimité, dans le profond de nos cœurs. Et je crois que notre offrande est justement un moyen de manifester l'action de Dieu de manière visible à l'extérieur de nous. En donnant, alors ce n'est pas le but de donner de manière spectaculaire, mais en donnant, et là, il me semble que l'exemple est assez intéressant, on le pratique peu de cette manière-là, mais en donnant de manière visible l'offrande des premiers fruits, c'est une manière que la Bible nous encourage à montrer que Dieu agit dans la vie des croyantes et des croyants. Ça devient concret, matériel. Il y a des choses qu'on fait, qu'on donne, qui deviennent tout à coup visibles et qui dénotent l'action de Dieu dans notre vie. On présente souvent l'offrande, puis ici aussi, hein, la frate, hein, puis j'en fais partie, avec une visée de se dire ben, « c'est pour payer les pasteurs, je vous remercie ». Pour payer l'entretien des bâtiments, pour payer plein de choses, et c'est vrai. Il n'y a absolument rien à redire à ce niveau-là, mais ce n'est pas la raison principale pour laquelle on fait passer des offrandes chaque dimanche dans nos rangs. La raison principale, c'est parce que cette action qu'on peut vivre en communauté permet de rendre visible ce que Dieu fait dans nos vies, à nous, et dans ma vie, à moi. Rien d'autre. Après, tout le reste découle de ce geste de foi. De ce geste fondamental où on dit notre relation avec Dieu. Et si on y regarde d'y plus près, dans ce qui se passe dans ce petit texte de Deutéronome qui nous a dit comment offrir finalement, c'est assez beau de voir qu'il commence par apporter les premiers fruits et que cette offrande est liée à une confession de foi. Je vous la relis. Tu iras vers le prêtre qui sera en fonction ces jours-là et tu lui diras « Je déclare aujourd'hui au Seigneur ton Dieu que je suis entré dans le pays que le Seigneur a juré à nos pères de nous donner. » Il ne donne pas parce qu'il doit, il ne donne pas parce que c'est la coutume, il donne parce qu'il reconnaît l'action de Dieu dans la vie du peuple. C'est lié à une confession de foi. Donc c'est lié à une relation avec, qu'on entretient de manière vivante avec notre Dieu. Ce n'est pas une obligation, comme l'a dit, mais on doit donner. Et je reviens à l'exemple des catéchumènes. X pourcentage. C'est parce qu'on est en relation avec Dieu et parce que Dieu nous a sauvés que le chrétien et le croyant donnent. Puis renversement, si on ne le comprend pas, on est cuit. On doit là, aller là-dessus, parce que sinon on se fait une fausse image de Dieu et de ce qu'il nous demande. Une fausse image de Dieu, vous savez comment ça s'appelle ? De l'idolâtrie. Et c'est pour ça qu'ensuite, à la fin, il est dit, tu lui déposeras cette offrande devant le Seigneur, ton Dieu, et tu te prosterneras, pas devant l'offrande, mais devant le Seigneur, ton Dieu. C'est pour ça qu'il peut y avoir ce geste d'adoration qui suit ce geste d'offrande. Et c'est pour ça, chers frères et sœurs, que nous avons une conviction profonde de vivre ce temps d'offrande pendant le culte. Parce que les chrétiens et les croyants considèrent que c'est un geste d'adoration, de redonner ce que Dieu nous a donné. Or, ce n'est pas juste un truc administratif qu'on fait passer les paniers, clac, clac, puis on passe à autre chose. C'est bien plus profond que ça. Et c'est pour ça qu'il a sa place dans notre culte. Parce qu'au même titre que la louange, je crois que bibliquement, l'offrande est un geste d'adoration où finalement on se prosterne devant Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies. Et là, ça prend une autre dimension. Et il y a quelques raisons pour cela, parce que c'est le signe visible de l'action de Dieu, parce que c'est une confession de notre foi, et finalement, parce que nous donnons un signe de reconnaissance, car tout a déjà été donné. Et quand sur la croix, Jésus dit « tout est accompli », quand sur le matin de Pâques, les disciples vont et voient ce tombeau vide qui donne la résurrection et la vie, il y a tout qui est déjà accompli pour nous. D'une certaine façon, on vit déjà dans ce pays ruisselant de lait et de miel. D'une certaine façon, nous y sommes déjà dans cette nouvelle alliance et puis on l'a vécu durant le temps de Sainte-Cène et ce temps d'adoration. On est déjà dans ce « tout est donné », même si on n'a pas encore la plénitude de ce que ça signifie complètement, ça nous sera révélé au dernier temps. Mais on y est déjà dans cette réalité-là de la grâce. Ce n'est pas qu'une proclamation, on y est. Et nous sommes appelés, en tant que croyants, à poser ces gestes réguliers, parce qu'on est un peu comme tout le monde, on s'habitue à la grâce, ça devient normal, ça devient un dû, ça devient quelque chose qui doit nous servir. Et je crois que ces deux éléments de renoncement et ces éléments de don nous préviennent de tomber dans ces écueils-là. Et c'est absolument fondamental de pouvoir les vivre pleinement, de pouvoir les vivre pleinement chaque dimanche, parce que je crois qu'on a besoin de piqûres de rappel assez régulières. Et c'est pour ça que pendant ce temps de Pâques, on a l'occasion unique de revenir à ces essentiels-là et de ne pas nous habituer finalement à la grâce de Dieu, mais de la considérer toujours par rapport à ce que ça lui coûte et toujours par rapport à ce qu'il a fait pour nous, de ce qu'il nous a donné. Et en conséquence, nous pouvons vraiment nous réjouir. Avec le Lévite, puis ça, si on fait le parallèle, c'est, vous pouvez même inviter les pasteurs à vos fêtes, parce que c'est nous, les Lévites, et avec l'immigré. Et je trouve quand même assez extraordinaire que ce texte, je l'ai reçu pour aujourd'hui depuis plusieurs semaines, et qui mentionne explicitement cela, parce que ça résonne. Hein, ça ne peut que résonner dans nos cœurs de lire ces éléments-là, que cette grâce, tu la partageras avec le Lévite, avec l'immigré, c'est-à-dire avec ceux normalement qui sont en dehors, ceux normalement qui ne sont pas forcément conviés à la même table. Et je crois que cette fête de Pâques, on peut le vivre vraiment de manière particulière cette année, et particulièrement avec ce verset 11, « Puis tu te réjouiras avec le Lévite et avec l'immigré qui sont en ton sein, pour tous les biens que nous avons et que le Seigneur ton Dieu t'a donné à toi et à ta maison. » Il y a énormément de choses dans ce verset, dans le contexte dans lequel il est énoncé. Ce contexte où nous sommes appelés à ouvrir nos cœurs, à ouvrir nos portes, à ouvrir selon ce que, tu l'as très bien dit, Claudia nous met sur le cœur, ce que le Seigneur nous met sur le cœur. Et nous recevons ce verset-là pour nous réjouir avec les personnes qui sont autour de nous. Alors que nous puissions prendre avec ces recommandations qui sont millénaires, ces recommandations qui nous ont été données dans un autre contexte complètement différent, dans un désert de Judée il y a 3000 ans, et qui résonnent encore si fort au cœur d'une ville en Suisse en 2022. Il y a quelque chose de fascinant. Il y a quelque chose de fascinant qui nous permet de nous réjouir dans cette perspective de Pâques et de nous mettre en œuvre ce que Dieu a donné et ce qu'il nous a donné de plus précieux, son Fils. On l'a vécu à travers ce temps de Sainte-Cène et je suis très reconnaissant qu'on ait pu le vivre. Et puis, je nous invite à nous réjouir en lui. Prions. Notre Père, merci parce que tu nous as tout donné. Nous sommes devant toi ce matin pour dire qu'en tant que peuple, ton peuple que tu t'es choisi, nous te devons tout. Nous te devons notre situation, nous te devons la vie, nous te devons ce que tu mets devant nous chaque jour, chaque instant de nos vies. Merci parce que nous pouvons vivre ce temps de Pâques qui signifie énormément pour nous, ensemble. Ensemble les uns avec les autres et ensemble avec toi. Merci pour le travail que tu fais dans nos vies, dans nos cœurs, pour cette transformation que tu veux toujours et encore opérer en nous, pour que toujours nous nous offrions plus à ta grâce et que cette grâce puisse découler bien à l'extérieur de nous et à l'extérieur de notre communauté. Merci pour ces temps que tu nous offres, particuliers de préparation à Pâques. Permets qu'ils soient féconds dans nos vies. C'est ce que je te demande dans le nom de Jésus. Amen.